Radio République Indonesia, Service International, La Voix d'Indonésie.
Informing, connecting, dignifying.
Radio République Indonesia, Service International, La Voix d'Indonésie, présente des nouvelles, des informations actuelles et des divertissements. Vous pouvez écouter notre émission tous les jours sur les fréquences ondes courtes de 15 150, 9 525 et 11 785 kHz. Le programme de l'émission en français ou écouter l'audio sur demande sur www.voi.co.id.
Bonsoir, serviteurs et serviteurs des quatre coins du monde. Voici l'émission quotidienne en français diffusée depuis Jakarta. Notre émission va commencer par le journal suivi du commentaire et l'histoire d'aujourd'hui.
La voix de l'Indonésie, les informations.
Bonsoir à tous, bienvenue dans le programme Le Journal. Nous commençons avec les titres. L'Indonésie achète 11 avions de chasse Sukhoi Su-35 de Russie avec le système de troc. Le président de Kadin a dit « L'Indonésie est le centre de la démocratie et l'économie de l'Asie du Sud-Est ». Le gouvernement indonésien est engagé à continuer de contribuer à l'ASEAN. Rencontré le vice-président, le gouverneur de préfecture d'Haïti discute de l'intensification de la coopération. Le ministère indonésien de l'Industrie et l'ambassade d'Inde tiennent Roadshow World India Food 2017. Voici le journal complet. L'Indonésie achète 11 avions de chasse Sukhoi Su-35 de Russie avec le système de troc. Et la Russie, en tant que pays vendeur, est obligée d'acheter des produits d'exportation indonésiens. Cela a été convenu par les deux pays via la signature d'un protocole d'accord. Le mécanisme de troc est conforme à la loi numéro 16-2012 sur l'industrie de la défense. Cela a été déclaré par le ministre de la Défense, Riyamizat Riyakudu, dans une conférence de presse conjointe avec le ministre du Commerce, Enggartias Tolukita, au ministère indonésien de la Défense, Jakarta, mardi le 22 août. Selon Riyamizat, les avions de chasse doivent être en Indonésie en 2019.
Jadi pembelian ini sesuai dengan aturan, dengan undang-undang.
Cet achat conformément à la loi. La réalisation est entre le gouvernement et le gouvernement. C'est un troc avec 50% de commerce et 35% de compensation. Donc il devient 85%. Cela contribue également à l'exportation. Il n'y a pas seulement les importations. Avec cette alutsista, nous avons la valeur ajoutée pour exporter nos produits. Le ministre du Commerce, Enggartias Tolukita, a déclaré que le gouvernement indonésien était d'accord pour nommer PT, Perusahaan Perdagangan Indonesia, ou PPI, et le gouvernement russe a nommé Hostek en tant que responsable technique du troc. Dans l'accord conjoint, selon le ministre Enggartias Tolukita, Hostek achètera plus d'une marchandise d'exportation avec les options de caoutchouc, de CPO, de café, de cacao, de textile, de thé, de chaussures, de meubles, de matières plastiques, d'épices, etc. L'Indonésie est le centre de pratique démocratique et de l'économie en Asie du Sud-Est. Il a été dit par le président de la Chambre indonésienne de commerce et d'industrie, Kadin, Rosan P. Ruslani, à Roadshow World Food India 2017, qui a eu lieu à l'hôtel JW Marriott, Megakuningan, Jakarta, mardi. Sous la direction du président Jokowi, l'Indonésie a atteint de nombreuses réalisations économiques.
Indonesia adalah pusat demokrasi, ekonomi, serta politik di Asia Tenggara.
Indonesia adalah centre de la démocratie, l'économie et la politique en Asie du Sud-Est. Sous la direction du président Joko Widodo, l'Indonésie a beaucoup de rapports économiques dans l'augmentation des investissements directs étrangers et la consommation intérieure et d'améliorer l'utilisation du budget du gouvernement pour l'ordre du jour des infrastructures ambitieuses après la suppression des subventions au carburant. En rapport avec les réalisations économiques qui ont été atteintes, le président de Kadin, Rosan P. Ruslani, a déclaré que l'Indonésie devait continuer à renforcer la coopération avec les pays voisins entre autres avec l'Inde comme le 7e plus grand partenaire commercial d'Indonésie. Le gouvernement d'Indonésie continue de s'engager à contribuer à l'ASEAN. L'un d'entre eux est la fourniture de terrain et ses certificats pour l'agrandissement du bâtiment du secrétariat de l'ASEAN. Cela a été indiqué par l'envoyé permanent de la République d'Indonésie pour l'ASEAN, Hilman Arisman, dans son discours lors de la conférence internationale de l'ASEAN, mercredi le 22 août à l'Université Brawijaya, Malang, Java Oriental. Comme l'engagement du gouvernement de la République d'Indonésie, le président Joko Widodo a symboliquement donné un certificat à la ministre indonésienne des Affaires étrangères, Retno Marsudi, lors de la commémoration au secrétariat de l'ASEAN, afin d'élargir le bâtiment du secrétariat de l'ASEAN à Jakarta. En outre, Hilman Arisman a ajouté qu'en plus de contribuer à l'expansion du bâtiment, du secrétariat de l'ASEAN, le gouvernement indonésien a également contribué par la création d'un centre d'études de l'ASEAN aux divers campus en Indonésie et a appuyé la mise en œuvre de la communauté économique de l'ASEAN. Le vice-président Muhammad Yusuf Kalla, mardi à Jakarta, a reçu une visite d'honneur du gouverneur de la préfecture d'Aichi, Hideaki Omura. Au cours de sa visite au bureau du vice-président, le gouverneur Hideaki a amené un certain nombre de délégations économiques. Cette réunion est la troisième réunion qui est menée dans le cadre d'accroître la coopération dans les domaines de l'économie et des affaires. Le gouverneur Hideaki Omura a déclaré qu'il y avait environ 5000 entrepreneurs d'Aichi avec plus de 200 entreprises en Indonésie. Il est également compensé par 5400 citoyens indonésiens à Aichi. Il a déclaré que sa partie avait le projet d'établir un bureau de représentation préfectorale en Indonésie ainsi que le bureau du consulat général dans la préfecture d'Aichi en janvier 2018. Selon lui, ce projet était bien accepté par le vice-président et sera bientôt considéré. Plusieurs choses ont été soumises au vice-président. La première concernant les affaires. Jusqu'à présent, 240 entreprises de la préfecture d'Aichi investissent ici, y compris le secteur de l'automobile comme Toyota et d'autres groupes. Compte tenu, cela est un tiers de l'investissement que le Japon a déjà investi provient de notre préfecture d'Aichi. Le gouverneur de la préfecture d'Aichi, Hideaki Omura, espère que le gouvernement indonésien pourra ouvrir une ligne de vol direct reliant Jakarta et Nagoya. Ceci, a-t-il dit, a été bien accepté par le vice-président Yusuf Kalla et sera suivi par le ministre des Transports et la compagnie aérienne nationale Garuda Indonesia. Il espère également que l'Indonésie continue d'améliorer les infrastructures à l'appui des activités commerciales étrangères dans le pays et de continuer à améliorer le climat d'investissement plus propice. Cela se fait en organisant une réunion des hommes d'affaires indonésiens et d'Aichi. Le ministère indonésien de l'Industrie, en collaboration avec l'ambassade de l'Inde, a organisé Roadshow World India Food 2017 à l'hôtel JW Marriott, Jakarta, le 22 août 2017. Cette activité est aussi la participation de la Chambre indonésienne de commerce et d'industrie, ou KADIN, et l'Association des entrepreneurs et des boissons indonésiennes, GAPMI. Il a présenté les produits et les entreprises alimentaires et des boissons de l'Inde. Selon le personnel expert du ministère de l'Industrie, Dharma Budi, l'exposition Roadshow World India Food 2017 vise entre autres à augmenter la croissance de l'industrie alimentaire et des boissons en Indonésie.
Dalam rangka meningkatkan pertumbuhan industri makanan minuman, Kementerian Perindustrian selain berperan
afin d'améliorer la croissance de l'industrie alimentaire et des boissons, le ministère de l'Industrie joue le rôle actif de créer le climat d'investissement favorable, continue également de faciliter la promotion de l'industrie alimentaire et des boissons à l'intérieur du pays et à l'étranger. On souhaite que l'exposition puisse encourager des entrepreneurs dans le domaine de l'industrie alimentaire et des boissons à introduire des produits, la qualité, l'image de marque, ainsi que l'obtention de divers commentaires des clients. Selon Dharma Budi, on établit la coopération avec l'Inde parce que ce pays est le sixième plus grand de marché de la nourriture et des boissons dans le monde. il a un grand potentiel d'exporter des produits indonésiens. Cette exposition est une série d'événements de World Food India 2017 qui se tiendra à New Delhi en novembre. Les hommes d'affaires indonésiens de la nourriture et des boissons qui assistent à l'exposition peuvent rencontrer directement des hommes d'affaires de l'Inde et ils sont invités à participer à World Food India 2017. Secrétaire, c'était le journal de la Voix d'Indonésie à Jakarta.
Bonsoir, auditeurs et auditrices. Vous êtes à l'écoute de la Voix de l'Indonésie à Jakarta. Le commentaire pour aujourd'hui, le long chemin de l'Afghanistan vers la paix. Les États-Unis sont déterminés à augmenter le nombre des troupes américaines en Afghanistan. Le secrétaire américain de la Défense, James Mattis, a rendu ce discours après le discours du président Donald Trump à Washington lundi. Selon un officiel de la Maison-Blanche, le président Trump a donné le feu vert à la livraison de près de 4000 soldats américains en Afghanistan. Mattis a immédiatement ordonné au président Du Juan, chef d'état-major, de se préparer au déploiement de troupes et de consulter le secrétaire général de l'OTAN. Actuellement, en Afghanistan, il y a encore plus de 8000 soldats américains et 5000 soldats de l'OTAN. Leur travail est de soutenir les forces de sécurité afghanes contre les talibans et d'autres groupes militants. Cependant, la situation en Afghanistan n'a pas été très favorable. Au moins 2500 policiers et soldats ont été tués au cours des 5 premiers mois de l'an 2017. En dépit de l'intention d'augmenter le nombre de troupes, le président Trump, dans son discours, a également accordé de donner l'espace à un accord politique avec les talibans. Cela pourrait se produire après les efforts militaires pour trouver un règlement politique avec les talibans en Afghanistan. Précédemment, Trump a déjà déclaré que les États-Unis soutiendraient le gouvernement afghan et l'armée contre les talibans qui ont causé des conflits pendant 16 ans. Cependant, le secrétaire d'État américain Rex Tillerson a accueilli les efforts du président Trump en mettant la pression sur le Pakistan pour intensifier ses opérations militaires. Ceci est considéré comme un soutien aux diplomates américains pour rechercher des solutions politiques. Selon Tillerson, la stratégie américaine est plus flexible sans fixer le délai. Le plan de Trump obtient l'opposition des talibans qui ont autrefois régné l'Afghanistan de 1996 au 2001. Dans une lettre ouverte la semaine dernière, les talibans, en plus de critiquer les États-Unis, ont également critiqué le gouvernement afghan. Le groupe a prévenu que Trump n'augmenterait pas les troupes et même retirerait ses troupes de la zone du conflit. Plus tôt cette année, les talibans ont également publié une lettre ouverte demandant aux États-Unis de mettre fin à la guerre en Afghanistan. Les conflits prolongés en Afghanistan qui coûtent de l'argent et éliminent la vie des soldats et des civils devraient finir bientôt. Cependant, le plan du président Trump ne pouvait pas finir la guerre immédiatement. Cela considère que l'option militaire est encore plus prioritaire que l'option des négociations diplomatiques. Gardez à l'esprit que l'armée américaine en Afghanistan a déjà atteint plusieurs dizaines de milliers, mais le conflit persiste. D'autre part, les talibans, malgré sa lutte dans son propre pays, devraient adopter la position de prioriser les négociations par des canaux politiques plutôt que des militaires pour que la paix en Afghanistan se matérialise. C'était le commentaire.
Vous êtes toujours avec la Voix de l'Indonésie à Jakarta. Vous pouvez aussi nous écouter par Internet sur le site www.voi.co.id.
Secrétaire, bonsoir. Voici donc l'histoire d'aujourd'hui qui s'agit d'événements importants. Nous commençons l'histoire d'aujourd'hui avec l'événement. L'Allemagne et l'Union soviétique ont signé le traité de non-agression à Moscou le 23 août 1939. Le pacte signé par les ministres des Affaires étrangères allemands Joachim von Ribbentrop et soviétique Vyacheslav Molotov en présence de Staline. Ce pacte réglemente également que les deux parties restent neutres dans une situation où l'un des signataires du parti du pacte est attaqué et doivent se battre avec des éléments étrangers. Mais l'Allemagne a violé le pacte de non-agression avec le lancement de l'opération Barbarossa le 20 juin 1941. Tiang Afang Dang Bahir La Kusi. Notre information est sur une conférence de la table ronde s'est tenue à La Haye, aux Pays-Bas, le 23 août 1949. C'est une réunion entre des représentants du Royaume des Pays-Bas, de la République de Tunisie, du 23 août au 2 novembre 1949. L'effort pour étouffer l'indépendance de l'Indonésie par la violence termine en échec. Les Pays-Bas ont reçu des sévères critiques de la communauté internationale. Les Pays-Bas et l'Indonésie ensuite ont tenu plusieurs réunions pour résoudre ce problème par la diplomatie, par la négociation Linggarjati, la Côte Renville, la Côte Van Rooyen et la Table Ronde. Les résultats d'une conférence de la Table Ronde ont entre autres le transfert de souveraineté du gouvernement colonial néerlandais à la République des États d'Indonésie, à l'exception Papouasie-Occidentale. L'Indonésie veut toutes les traces des Antilles orientales néerlandaises sont devenues la région indonésienne, tandis que les Pays-Bas veulent faire la Papouasie-Occidentale en état séparé en raison des différences ethniques. La conférence était terminée sans une décision sur cette question. Par conséquent, l'article 2 stipule que la Papouasie-Occidentale ne faisait pas partie du transfert et que ce problème sera résolu dans un an. Nous finissons aujourd'hui avec la fondation du Parti Amanat National ou le Parti du Mandat de la Nation le 23 août 1998. Le Parti du Mandat de la Nation est habituellement associé au mouvement de réforme. Il a été déclaré à Jakarta le 23 août 1998 par 50 dirigeants nationaux, entre autres l'ancien président de Muhammadiyah, Amin Rais, Gunawan Muhammad, Abdullah Toha, Rizal Ramli et Emil Salim. PAN vise à respecter la souveraineté populaire, la justice, le progrès matériel et spirituel. Les idéaux du parti enracinés dans la morale religieuse, humanitaire et le pluralisme. PAN adhère au principe de non-sectaire et non-discriminatoire. Sur le talk, c'était l'histoire d'aujourd'hui pour ce soir.
Radio République Indonésia, service international, la voix d'Indonésie.
Informing, connecting, dignifying.
Radio République Indonésia, service international, la voix d'Indonésie, présente des nouvelles, des informations actuelles et des divertissements.
Vous êtes toujours avec nous, Radio République Indonésia, service international, la voix d'Indonésie, sur les fréquences ondes courtes 15150, 9525 et 11785 kHz, le programme de l'émission en français. Vous pouvez aussi écouter nos émissions via l'Internet sur www.voi.co.id.
Chers auditeurs, avant d'écouter le rappel du titre de l'actualité, nous vous présentons d'abord la mise au point sur l'environnement.
Mise au point sur les infos et événements quotidiens.
Chers auditeurs, bonsoir. C'est le temps maintenant pour nous de vous présenter la mise au point sur l'environnement. Et pour le titre, Bungkulu a initié le couloir de l'éléphant à Kerinci Seblat. Le Centre de conservation des ressources naturelles de Bungkulu Lampung a initié la formation de couloirs d'éléphants de Sumatra dans la région de Kerinci Seblat, la résidence de Bungkulu du Nord et de Mukomuko en province de Bungkulu. Ce couloir est important pour sauver les éléphants de Sumatra de la menace d'extinction. Cela a été transmis par le chef du Centre de conservation des ressources naturelles de Bungkulu Lampung, Abu Bakar à Bungkulu, lors d'une discussion sur le lancement de la formation du corridor d'éléphant de Sumatra à Kerinci Seblat lundi le 21 août, comme l'a rapporté l'agence de presse Antara. Abu Bakar a expliqué que le couloir des éléphants serait transformé en une zone écosystémique essentielle. La superficie des zones proposées à la zone de l'écosystème essentiel est de 29 000 hectares se composant de la zone forestière de production, la forêt de la production limitée, le parc national de Seblat, le parc national de Kerinci-Seblat et une petite superficie de plantation de palmiers à huile et de colonies de résidents. Il a ajouté que le couloir sera géré par les équipes collaboratives des organismes gouvernementaux, des organisations non gouvernementales, des universités et des communautés de la région. À la même occasion, le chef de sous-direction du corridor et de la zone à la haute valeur de conservation, le directeur général de la conservation des ressources naturelles et de l'écosystème du ministère de l'Environnement et des Forêts, Mirawati Sujono, a déclaré « Si les habitats sont séparés comme à présent, la disparition de l'éléphant est plus rapide parce que le potentiel du mariage lié au sang est plus élevé. » Lorsqu'un mariage proche se produit, la fonction génétique diminue et peut accélérer l'extinction de l'éléphant. Pendant ce temps, le coordinateur du programme de Akar Network, Ali Akbar, a déclaré que l'implication de toutes les parties, y compris des groupes privés qui gèrent les plantations autour de l'habitat de l'éléphant, est très importante. Selon lui, la clé est que toutes les parties prenantes, les résidents, les compagnies de plantation de palmiers à huile et d'autres, devraient s'engager ensemble. Serviteur, c'était la mise au point sur l'environnement pour ce soir. L'Indonésie achète 11 avions de chasse Sukhoi Su-35 de Russie avec le système de troc. Et la Russie, en tant que pays vendeur, est obligée d'acheter des produits d'exportation indonésiens. Cela a été convenu par les deux pays via la signature d'un protocole d'accord. Le mécanisme du troc est conforme à la loi numéro 16-2012 sur l'industrie de la défense. Cela a été déclaré par le ministre de la Défense, Riamizi Triakudu, dans une conférence de presse conjointe avec le ministre du Commerce, Enggartia Stolokita, au ministère indonésien de la Défense, Jakarta, mardi le 22 août. Selon Riamizat, les avions de chasse doivent être en Indonésie en 2019.
Jadi pembelian ini sesuai dengan aturan, dengan undang-undang.
Cet achat conformément à la loi. La réalisation est entre le gouvernement et le gouvernement. C'est un troc avec 50% de commerce et 35% de compensation. Donc il devient 85%. Cela contribue également à l'exportation. Il n'y a pas seulement les importations. Avec cet alutsista, nous avons la valeur ajoutée pour exporter nos produits. Le ministre du Commerce, Enggartia Stolokita, a déclaré que le gouvernement indonésien était d'accord pour nommer PT, Perusahaan Perdagangan Indonesia, ou PPI, et le gouvernement russe a nommé Hostek en tant que responsable technique du troc. Dans l'accord conjoint, selon le ministre Enggartia Stolokita, Hostek achètera plus d'une marchandise d'exportation avec les options de caoutchouc, de CPO, de café, de cacao, de textile, de thé, de chaussures, de meubles, de matières plastiques, d'épices, etc. L'Indonésie est le centre de pratique démocratique et de l'économie en Asie du Sud-Est. Il a été dit par le président de la Chambre indonésienne de commerce et d'industrie, Kadin, Rosan P. Ruslani, à Roadshow World Food India 2017, qui a eu lieu à l'hôtel JW Marriott, Megakuningan, Jakarta, mardi. Sous la direction du président Jokowi, l'Indonésie a atteint de nombreuses réalisations économiques.
Indonesia adalah pusat demokrasi, ekonomi, serta politik di Asia Tenggara.
Indonesia adalah centre de la démocratie, l'économie et la politique en Asie du Sud-Est. Sous la direction du président Joko Widodo, l'Indonésie a beaucoup de rapports économiques dans l'augmentation des investissements directs étrangers et la consommation intérieure et d'améliorer l'utilisation du budget du gouvernement pour l'ordre du jour des infrastructures ambitieuses. Après la suppression des subventions au carburant. En rapport avec les réalisations économiques qui ont été atteintes, le président de Kadin, Rosan P. Ruslani, a déclaré que l'Indonésie devait continuer à renforcer la coopération avec les pays voisins, entre autres avec l'Inde comme le 7e plus grand partenaire commercial d'Indonésie. Le gouvernement d'Indonésie continue de s'engager à contribuer à l'ASEAN. L'un d'entre eux est la fourniture de terrains et ses certificats pour l'agrandissement du bâtiment du secrétariat de l'ASEAN. Cela a été indiqué par l'envoyé permanent de la République d'Indonésie pour l'ASEAN, Hilman Arisman, dans son discours lors de la conférence internationale de l'ASEAN, mercredi le 22 août à l'Université Brawijaya, Malang, Java Oriental. Comme l'engagement du gouvernement de la République d'Indonésie, le président Joko Widodo a symboliquement donné un certificat à la ministre indonésienne des Affaires étrangères, Retno Marsudi, lors de la commémoration au secrétariat de l'ASEAN, afin d'élargir le bâtiment du secrétariat de l'ASEAN à Jakarta. En outre, Hilman Arisman a ajouté qu'en plus de contribuer à l'expansion du bâtiment du secrétariat de l'ASEAN, le gouvernement indonésien a également contribué par la création d'un centre d'études de l'ASEAN au divers campus en Indonésie et a appuyé la mise en œuvre de la communauté économique de l'ASEAN. Le vice-président Muhammad Yusuf Kalla, mardi à Jakarta, a reçu une visite d'honneur du gouverneur de la préfecture d'Aichi, Hideaki Omura. Au cours de sa visite au bureau du vice-président, le gouverneur Hideaki a amené un certain nombre de délégations économiques. Cette réunion est la troisième réunion qui est menée dans le cadre d'accroître la coopération dans les domaines de l'économie et des affaires. Le gouverneur Hideaki Omura a déclaré qu'il y avait environ 5000 entrepreneurs d'Aichi avec plus de 200 entreprises en Indonésie. Il est également compensé par 5400 citoyens indonésiens à Aichi. Il a déclaré que sa partie avait le projet d'établir un bureau de représentation préfectorale en Indonésie ainsi que le bureau du consulat général dans la préfecture d'Aichi en janvier 2018. Selon lui, ce projet était bien accepté par le vice-président et sera bientôt considéré. Plusieurs choses ont été soumises au vice-président. La première concernant les affaires. Jusqu'à présent, 240 entreprises de la préfecture d'Aichi investissent ici, y compris le secteur de l'automobile comme Toyota et d'autres groupes. Comme tenu, cela est un tiers de l'investissement que le Japon a déjà investi provient de notre préfecture d'Aichi. Le gouverneur de la préfecture d'Aichi, Hideaki Omura, espère que le gouvernement indonésien pourra ouvrir une ligne de vol direct reliant Jakarta et Nagoya. Ceci, a-t-il dit, a été bien accepté par le vice-président Yusuf Kalla et sera suivi par le ministre des Transports et la compagnie aérienne nationale Garuda Indonesia. Il espère également que l'Indonésie continue d'améliorer les infrastructures à l'appui des activités commerciales étrangères dans le pays et de continuer à améliorer le climat d'investissement plus propice. Cela se fait en organisant une réunion des hommes d'affaires indonésiens et d'Aichi. Le ministère indonésien de l'Industrie, en collaboration avec l'ambassade de l'Inde, a organisé Roadshow World India Food 2017 à l'hôtel JW Marriott, Jakarta, le 22 août 2017. Cette activité est aussi la participation de la Chambre indonésienne de commerce et d'industrie, ou CADIN, et l'Association des entrepreneurs et des boissons indonésiennes, GAPMI. Il a présenté les produits et les entreprises alimentaires et des boissons de l'Inde. Selon le personnel expert du ministère de l'Industrie, Dharma Budi, l'exposition Roadshow World India Food 2017 vise entre autres à augmenter la croissance de l'industrie alimentaire et des boissons indonésiennes.
Dalam rangka meningkatkan pertumbuhan industri makanan minuman, Kementerian Perindustrian selain berperan
afin d'améliorer la croissance de l'industrie alimentaire et des boissons, le ministère de l'Industrie joue le rôle actif de créer le climat d'investissement favorable, continue également de faciliter la promotion de l'industrie alimentaire et des boissons à l'intérieur du pays et à l'étranger. On souhaite que l'exposition puisse encourager des entrepreneurs dans le domaine de l'industrie alimentaire et des boissons à introduire des produits, la qualité, l'image de marque, ainsi que l'obtention de divers commentaires des clients. Selon Dharma Budi, on établit la coopération avec l'Inde parce que ce pays est le sixième plus grand de marché de la nourriture et des boissons dans le monde. Il a un grand potentiel d'exporter des produits indonésiens. Cette exposition est une série d'événements de World Food India 2017 qui se tiendra à New Delhi en novembre. Les hommes d'affaires indonésiens de la nourriture et des boissons qui assistent à l'exposition peuvent rencontrer directement des hommes d'affaires de l'Inde et ils sont invités à participer à World Food India 2017. Serviteur, c'était le journal de la Voix d'Indonésie à Jakarta.
Radio République Indonésie, service international, la Voix d'Indonésie.
Informing, connecting, dignifying.
Radio République Indonésie, service international, la Voix d'Indonésie, présente des nouvelles, des informations actuelles et des divertissements.
Vous êtes toujours avec nous, Radio République Indonésie, service international, la Voix d'Indonésie, sur les fréquences ondes courtes 15150, 9525 et 11785 kHz. Le programme de l'émission en français. Vous pouvez aussi écouter nos émissions via l'internet sur www.voi.co.id.
Chers auditeurs, un grand merci de votre fidélité d'écouter la Voix d'Indonésie diffusée depuis Jakarta. C'est temps maintenant pour nous de vous présenter le magazine culturel et apprendre l'indonésien.
Écoutez des informations et les arts et cultures indonésiens dans le programme quotidien Tour de beauté en Indonésie.
Bonsoir, chers amis. Merci d'écouter la Voix d'Indonésie. Voici la rubrique magazine culturel. Cette fois, nous allons vous présenter la plage de Timang dans la province de Yogyakarta. Alors restez avec nous sur la Voix d'Indonésie, le service international de la RRI. Outre par les zones courtes, vous pouvez également écouter notre émission sur www.voi.co.id ou à travers RRI Play sur votre téléphone intelligent. Chers auditeurs, les destinations touristiques à Yogyakarta sont nombreuses et variées. Chaque lieu est célèbre pour sa propre caractéristique, comme l'une des destinations touristiques à la résidence de Gunung Kidul, à savoir la plage de Timang, qui est célèbre pour son téléphérique. Chers auditeurs, la plage de Timang a deux parties avec des caractéristiques différentes. À la partie orientale, il y a un panorama exotique avec un beau sable blanc, tandis qu'en partie occidentale, il y a une île qui contient des grandes roches qui sont l'île de Timang. En plus de jouer à la plage et profiter du panorama exotique, il y a d'autres choses qui devraient être essayées par les touristes qui viennent à cet endroit, à savoir le téléphérique. Ce téléphérique est un moyen de transport pour traverser. Au cours de prendre le téléphérique, les touristes seront touchés par des petites vagues qui frappent le visage et le corps. Le coût pour profiter du plaisir par le téléphérique est 150 000 rupiahs par personne. Chers auditeurs, ne vous inquiétez pas pour ceux d'entre vous qui n'aiment pas les défis, parce que vous pouvez traverser la plage de Timang sans utiliser de téléphérique. Cette destination touristique fournit un pont reliant le continent à la plage Timang. En plus de téléphérique, la plage Timang offre également d'autres installations qui sont si intéressantes, à savoir la guérite de vous. Cette guérite de vous peut être un endroit pour voir le panorama de la mer du Sud exotique, qui est un endroit pour selfie. Serviteurs, si vous êtes à Yogyakarta, n'oubliez pas de visiter la plage de Timang qui se trouve à Pedukuhan, Danggolo, village de Purwodadi, sous-district de Tepus, la résidence de Gunung Kidul. De la ville de Yogyakarta à l'île de Timang, à la distance d'environ 70 km, et prend environ 2 heures de route. La route pour aller à la plage de Timang peut être déboutée de la ville de Wonosari vers la plage de Baron, puis après la jonction de Mulo, conduisez le véhicule à la place de Siung. Après cela, notez le marqueur routier qui donne des indications sur l'emplacement de la place de Timang. Serge Talk, c'était le magazine culturel pour ce soir avec le titre La plage de Timang dans la province de Yogyakarta. Demain, nous nous retrouverons avec un sujet plus intéressant encore. À bientôt!
Comprendre et parler l'indonésien, vous pouvez écouter notre programme Allez apprendre l'indonésien.
Bonsoir à tous, nous continuons notre émission ce soir avec la rubrique Apprendre l'indonésien, un programme qui introduit le vocabulaire de la langue indonésienne et vous guide de parler indonésien. Ce programme est une collaboration entre La Voix d'Indonésie, le Service mondial de Radio République Indonésia et l'Agence pour le développement de la langue du ministère de l'Éducation et de la Culture d'Indonésie. Le sujet d'aujourd'hui est pompe à air rusak ou en langue française, ma pompe à eau est cassée. Tout d'abord, je vais introduire le vocabulaire et les expressions reliant au sujet d'aujourd'hui. Je vais prononcer deux fois et vous pouvez répéter après moi. Pompa air. Pompa air. En français, pompe à eau. Rusak. Rusak. En français, être cassé. Memakai. Memakai. En français, utiliser. Kamar mandi. Kamar mandi. En français, salle de bain. Rumah, rumah, en français, maison. Air, air, en français, eau. Tidak ada, tidak ada, en français, rien. Nomor telepon, en français, numéro de telepon. Tukang air, tukang air, en français, homme de l'eau. Langganan, langganan, en français, abonnement. Periksa, periksa, en français, vérifier. Pipa air, en français, tuyau d'eau. Bocor, bocor, en français, fuite. Pagi-pagi, pagi-pagi, en français, tôt le matin. Merepotkan. Merepotkan. En français, trouble. Tidak apa-apa. Tidak apa-apa. En français, ça va. Ensuite, je vais donner un exemple de conversation ayant pour titre « Pompa air saya rusak » ou en langue française « Ma pompe à eau s'est cassée ». Comme d'habitude, je vais prononcer lentement phrase par phrase deux fois. Vous pouvez répéter après moi. C'est une conversation entre Annie A et Rita B chez Rita. A. Rita, bolehkah saya mandi di rumah kamu? Je répète. Rita, bolehkah saya mandi di rumah kamu? En français. Rita, puis-je prendre un bain chez vous? B. Tentu saja. Ada apa dengan kamar mandi kamu? Tentu saja, ada apa dengan kamar mandi kamu? En français, bien sûr, quel est le problème de votre salle de bain? A. Di rumah saya tidak ada air. Di rumah saya tidak ada air. En français, dans ma maison il n'y a pas d'eau. A. Pompa air saya mati. Pompa air saya mati. En français, ma pompe à eau ne fonctionne pas. A. Apakah kamu punya nomor telepon tukang air? Apakah kamu punya nomor telepon tukang air? En français, avez-vous le numéro de téléphone de l'homme de l'eau? B. Saya punya langganan tukang pompa air. Saya punya langganan tukang pompa air. En français, j'ai un abonnement de l'homme de l'eau. B. Nanti saya suruh dia periksa pompa air kamu. Je répète. Nanti saya suruh dia periksa pompa air kamu. En français, plus tard, je lui demande de vérifier votre pompe à eau. B. Mungkin pompa air kamu rusak. Mungkin pompa air kamu rusak. En français, peut-être votre pompe à eau s'est cassée. A. Terima kasih. Terima kasih. En français, merci. A. Maaf telah mengganggu kamu. Je répète, maaf telah mengganggu kamu. En français, désolé de vous déranger. B. Tidak apa-apa. Tidak apa-apa. En français, ça va. Chers amis, c'est la rubrique Apprendre l'Indonésien pour ce soir. Que cette rubrique soit utile pour vous qui voulez connaître davantage la langue indonésienne. Rendez-vous demain avec un autre sujet plus intéressant. Merci d'être fidèle avec nous. Au revoir. Chers auditeurs, nous finissons notre programme avec le magazine musical.
Couleur du son, programme des musiques et des chansons indonésiennes.
Bonsoir, chers auditeurs et artistes dans le monde entier. Voici le magazine musical. Dans cette édition, on va vous présenter le groupe de musique Bonita and the Jazz Band. On écoutera une chanson intitulée Small Miracle. Bonne écoute. Serviteur, voilà une chanson d'ouverture d'aujourd'hui intitulée Small Miracle qui est chantée par Bonita and the Hoose Band. Il a été formé en 2006. Au début, il a été formé pour accompagner Bonita, une chanteuse, quand elle chantait. À ce temps-là, les membres de ce groupe étaient Bonita comme chanteuse, Peter Bianto, Adi, guitariste, et Barata Eligulo comme batteur. En 2009, Bonita and the Husband a été invité à Singapour et a reçu un accueil chaleureux du public. Un mois après le spectacle à Singapour, Bonita et Husband a été complété par Jimmy Tobin comme chanteur et saxophone. L'existence de Jimmy Tobin a officiellement formé ce groupe musical en 2009. Le nom de Bonita and the Husband décrit la relation entre Bonita et son mari, Peter Bianto Adi, comme le guitariste dans ce groupe. En chantant les chansons dont les genres sont pop, folk et soul, Bonita and the Husband fait les amateurs de musique indonésienne l'aiment toujours. Bon, serviteur, avant de parler plus de Bonita and the Husband, voici une chanson intitulée Do What You Gotta Do. Bonne écoute.
Oh,
Serviteur, voilà la chanson de Bonita and the Husband dont le titre est « Do what you gotta do ». En 2014, ce groupe a finalement publié un album intitulé « Small Miracle ». Cet album contient 12 chansons créées par Bonita and the Husband avec la chanson principale intitulée « Small Miracle ». Bonita and the Husband ont sorti leur deuxième album intitulé « Rumah » ou « La Maison » à la fin de 2016. Selon Bonita, le mot « rumah » ou « maison » a été choisi comme le titre de l'album car dès qu'il a été formé, le processus de travail de Bonita and Husband était plein de nuances familiales, de sorte qu'ils se sentent qu'ils sont dans une maison. L'album intitulé « Rumah » contient 7 chansons. Serviteur, avant de terminer notre programme, voici donc les deux dernières chansons de Bonita and the Husband intitulé Bromo et Rumah Temanku. Bonne écoute et à bientôt.
ada di sini. Andaikan kau ada di sini, andaikan kau ada.
Vous êtes toujours avec la voix de l'Indonésie à Jakarta. Vous pouvez aussi nous écouter par internet sur le site www.voi.co.id.
C'était notre programme pour ce soir. Rendez-vous demain, même heure et même fréquence. À bientôt.
Radio République Indonésia, service international, la voix d'Indonésie.
Informing, connecting, dignifying.
Radio République Indonésia, service international, la voix d'Indonésie. Présente des nouvelles, des informations actuelles et des divertissements. Vous pouvez écouter notre émission tous les jours sur les fréquences ondes courtes de 15 150, 9 525 et 11 785 kHz. Le programme de l'émission en français ou écouter l'audio sur demande sur www.voi.co.id.
Envoyez vos critiques et vos suggestions à notre adresse email info@voi.co.id ou envoyez vos courriers à Émission en français de la Voix d'Indonésie de la Radio République Indonésia, Jalan Medan Merdeka Barat 4 et 5, Jakarta, ou PO Box 1157, Jakarta 1011, Indonésie. Vous pouvez rejoindre au Facebook Voice of Indonesia et Twitter Voi Indonesia. Merci de nous avoir écoutés. Au revoir.